le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Effectivement, nous sommes toujours en direct sur Radio Imo et Radio Territoria en simultané avec nos équipes. Nous sommes présents à Bordeaux pour le congrès HLM de l'Union nationale, de l'Union sociale, pardon, de l'habitat, un événement fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Robert. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Alors évidemment, Abbé Pierre, fondation nationale qu'on connaît, mais est-ce que vous pouvez nous représenter justement les actions et les fondations de cette organisation ?
Bonjour à toutes et à tous. La Fondation, sa première mission, c'est d'agir pour apporter un soutien aux mal logés. Son modèle économique, en fait, c'est du don, essentiellement du don, quasi exclusivement du don privé, d'entreprises, de particuliers, qui nous permettent d'agir dans le domaine de la construction de logements très sociaux, la rénovation de logements pour des publics très précaires, la création de lieux d'accueil de jour, par exemple, pour les personnes sans domicile, des lieux d'accès aux droits. Donc on est sur toute la palette, finalement, de lutte contre le mal-logement en soutenant un secteur associatif. On finance à peu près 900 projets par an qui sont portés par 400, 500 associations pour, dans les territoires, un petit peu aussi à l'étranger, mais essentiellement en France, essayer, tant bien que mal, de sortir les mal logés de leur situation. Ça, c'est le premier volet de notre action. Le deuxième, il concerne la connaissance, le plaidoyer. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le prolongement de l'abbé Pierre qui disait qu'il faut agir, il faut apporter des réponses aux personnes, mais il faut aussi tenter au mieux de comprendre pourquoi les personnes en sont là, pour essayer de développer des politiques publiques qui soient plus protectrices, la capacité de tendre la main à ceux qui, à un moment, rencontrent des difficultés. Donc il y a tout un volet aussi connaissance, analyse, évaluation des politiques publiques, publication d'un rapport annuel national, des rapports régionaux, des propositions aussi pour essayer de construire un avenir un peu plus solidaire.
Oui. Est-ce que l'État a encore plus conscience de l'importance de votre association et de vos combats ?
L'État ?
Oui.
Écoutez, nous, on a des relations très, très régulières avec l'État, que ce soit au niveau local ou national. On a conscience du fait que la solidarité relève de la mission, d'une des missions majeures, finalement, de l'État, qui a ce devoir de solidarité. On sait aussi que par les leviers législatifs, les leviers financiers, c'est par là qu'on va pouvoir, à côté avec les collectivités locales, réussir à sortir de l'ornière. Donc, oui, je crois qu'il y a un respect réciproque. L'idée de la Fondation étant d'avancer, d'innover, d'expérimenter, de proposer, parfois quand même de dire quand ça va pas, parce qu'il y a des choix économiques, par exemple, qui sont, de notre point de vue, inégalitaires, et il faut le dire, donc il peut y avoir des tensions à certains moments, mais dans l'ensemble, l'idée, c'est de faire avancer la cause.
Donc vous sentez que vous êtes soutenu, en tout cas ?
Écoutez, soutenu, alors nous, on n'a pas de financement public, donc il n'y a pas de soutien financier, les pouvoirs publics partagent nos points de vue plus ou moins selon les périodes, plutôt moins que plus, faut quand même le dire, notamment parce que je pense qu'il y a une déconnexion finalement entre ce que vivent vraiment les gens au quotidien. Je vois en ce moment par exemple la flambée des prix de l'énergie et les mesures qui sont prises. On voit bien qu'il y a des décrochages, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, on a le sentiment de ne pas être suivi dans l'analyse que l'on a finalement de la situation et des fragilités dans notre pays.
Alors justement, en février dernier, votre fondation a présenté le 26e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qui décrit et analyse les conséquences justement sur le mal-logement de l'éruption inattendue de cette crise sanitaire. Quels ont été les résultats, en tout cas concrets, de ce rapport ?
Peut-être deux résultats majeurs. Le premier, c'est que cette pandémie, cette crise du Covid, a montré aux yeux de tous, mais j'allais dire ceux qui connaissent ce sujet le savaient déjà, à quel point le logement était déterminant. Plusieurs cas de figure. Au début de la pandémie, on a dit « restez chez vous ». Ben oui, mais quand on est sans domicile fixe, ça veut dire quoi « rester chez soi » ? Ensuite, on a dit « restez chez vous », mais quand c'est le logement, par exemple, qui rend malade ou qui crée des tensions parce qu'il est trop petit, parce qu'il n'est pas salubre, on fait du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a pu mesurer un peu plus, avec un effet zoom, les conséquences du mal logement sur la famille, sur la santé, sur le quotidien. On a pu aussi mesurer à quel point un certain nombre de personnes survivent, plus que vivent, avec les minima sociaux d'aujourd'hui. Vous savez, un RSA, c'est 500 euros pour une personne seule par mois. Et le fait qu'il y ait eu, par exemple, une réduction de voilure ou un arrêt des distributions alimentaires, des épiceries sociales, des maraudes, au début de la pandémie, au premier confinement, fait que des personnes avaient faim.
On n'a pas conscience de l'importance, en tout cas de ces associations, dans des cas de crise comme ça, inédite.
Oui, je pense que là, on a mesuré à quel point le réseau de solidarité était déterminant pour un certain nombre de publics dans notre pays. Mais j'allais dire, ça nous a surtout alerté sur le fait que les minima sociaux ne permettent pas de vivre dans de bonnes conditions. Évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu aussi autour, par exemple, de la revalorisation du RSA, pour faire que dans des moments difficiles comme celui que nous avons connu il y a un an et demi, les personnes puissent vivre dans de bonnes conditions. Après, il y a un autre enseignement que je voudrais partager avec vous, c'est celui des 3 mois du premier confinement, de l'efficacité des politiques publiques. Tout d'un coup, tout le monde était orienté vers des objectifs, c'est-à-dire vraiment sauver des personnes, trouver les moyens de leur apporter une réponse au maximum. Et là, on a vu tous les acteurs se mobiliser, du local, du national, de l'État, des collectivités, des associations, des citoyens. Et pour nous, ça a été un enseignement important. Si on veut, on peut faire autrement. C'est-à-dire, plutôt que se renvoyer la balle, la patate chaude, plutôt que de dire, c'est pas ma compétence, c'est pas ma responsabilité. À un moment, là, il y avait des objectifs. Tout le monde était autour de la table, chaque semaine, nous, avec le ministre du Logement, et on fonçait et on arrivait à avoir des résultats. Je voudrais qu'on en tire aussi un enseignement sur l'insuffisance des politiques publiques au quotidien. Je trouve que c'est une espèce de parenthèse heureuse qu'on a eue en termes d'action publique, malgré les difficultés, qui est intéressante à analyser.
Donc il faudrait que ce soit quelque chose qui soit...
Évidemment.
Et tirer vers le long terme, on est bien d'accord. Alors, comment les agences régionales de la Fondation Abbé Pierre soutiennent justement les acteurs locaux pour développer une offre de logement accessible, finalement ?
Alors, vous savez, la Fondation Abbé Pierre, elle est assez récente par rapport aux ONG, aux grosses associations. Mmh. Elle est reconnue d'utilité publique en 92. Et effectivement, depuis une quinzaine d'années, on a renforcé notre présence territoriale avec des agences pour être plus près des politiques publiques du logement, qui se sont quand même fortement décentralisé, pour être plus près des mal logés, des associations qu'on soutient. Donc, ça consiste à la fois rendre visibles les problèmes de mal logement sur les territoires concernés, et puis ça consiste à essayer de trouver des réponses, donc avec le secteur associatif, mais aussi avec les politiques publiques. Et je pense notamment aux collectivités locales, aux métropoles, aux agglomérations. Et on peut faire, par exemple, des partenariats où nous, on apporte un complément sur la production de logements très sociaux, des logements sociaux qui soient... de bonnes performances thermiques, par exemple, où on vient contribuer pour faire sortir du logement très social, peu cher en charge, et donc redonner du pouvoir d'achat à des ménages pauvres ou modestes. Donc là, on peut avoir des partenariats, des conventions avec des collectivités locales, par exemple.
Donc vous avez des actions, surtout coup de poing, j'imagine, au niveau local aussi.
Alors, ça, c'est plutôt au fil de l'eau, donc la construction, la réhabilitation... la création de lieux d'accueil pour les personnes sans domicile. Après, oui, l'idée, c'est aussi de rendre visible, parce que vous savez, on n'intervient que sur ce que l'on connaît, ce que l'on voit. Et donc, il y a un enjeu à rendre visibles tous ces invisibles, toutes ces fragilités, pour qu'elles soient mieux traitées au niveau local comme au niveau national. Donc, il peut y avoir des actions coup de poing. Il peut y avoir des coups de gueule aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, je pense par exemple au démantèlement une expulsion d'un bidonville sur lequel on était en train de travailler tous ensemble avec la collectivité, des associations à Montpellier, il y a quelques semaines, où le préfet tout d'un coup décide on expulse et met finalement à mal tout ce travail qui a été fait en amont. C'est pas acceptable.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce que c'est pas efficace, parce que ça résout pas le problème, parce que c'est pas efficace du point de vue des politiques publiques et c'est pas digne pour les personnes.
Alors, on a aussi un plan de relance qui met l'accent surtout sur la transition écologique. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui va changer la donne sur les sujets, les vrais sujets, justement, du mal-logement en France, ou ça ne va pas changer grand-chose à votre combat au quotidien ?
D'abord, une première réaction sur le plan de relance.
Oui,
le plan de relance, il y a un grand absent dans ce plan de relance, c'est la production.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est quand même un énorme
problème.
C'est
ce qui revient souvent.
Oui. Enfin, c'est dingue.
Bien sûr.
Quoi de plus efficace en termes de relance ?
De construire des logements.
Construire des logements, pour le développement des territoires, pour l'emploi et pour la réponse en logement dont nous avons besoin après 5 années de baisse quand même, qui sont assez inquiétantes. Après, l'enjeu de la rénovation thermique, pour nous, c'est un enjeu depuis très longtemps parce qu'on agit beaucoup dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique. Au fond, en quelques mots, ce sont souvent les plus pauvres et les plus modestes qui se logent durablement dans des passoires thermiques. Les 4 millions, les 4,7 millions.
Exactement.
Et donc, c'est une double peine, c'est-à-dire vous êtes dans un logement qui reste accessible à vos ressources, mais vous ne pouvez pas vous chauffer, ou alors vous dépensez un argent fou pour vous chauffer. Donc l'enjeu de la rénovation thermique est essentiel pour les questions écologiques, évidemment. On sait que le bâtiment est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, mais il l'est aussi pour les ressources des ménages. Parce que quand vous intervenez sur un logement, que vous faites une rénovation thermique globale, performante, vous réduisez sensiblement les coûts liés au logement du ménage concerné. Donc c'est un enjeu très important pour le pouvoir d'achat au titre des dépenses liées au logement, dont on sait que c'est le premier poste de dépense des ménages. Donc, grosso modo, il y a quand même des efforts qui ont été faits, il y a des évolutions positives en la matière, des outils, des moyens qui ont été déployés. Il reste quand même une petite, un petit impensé, ou pas suffisamment pensé, c'est la partie des plus pauvres. Si vous voulez, il y a un reste à charge pour mener une rénovation performante globale que ne peuvent pas payer les plus pauvres et les modestes. Donc là, il faut qu'on continue les efforts pour arriver à faire que ces ménages-là puissent, eux aussi, rendre performant leur logement.
Pourquoi c'était important d'être justement présent sur ce congrès aujourd'hui ? Quelle va être votre mission, ou quelle a été votre mission depuis hier ?
Écoutez, rencontrer du monde, les associations, les acteurs du logement social, les responsables politiques, locaux ou nationaux. J'interviendrai tout à l'heure à la plénière aussi sur l'enjeu des présidentielles. Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour les 5 ans à venir avec d'autres acteurs du logement ? Les acteurs du logement social sont essentiels. Je veux dire, là,
évidemment.
On voit bien 2 100 000 demandeurs de logements sociaux, c'est pas un hasard. C'est parce que le marché s'emballe, les coûts du logement flambent.
Tout augmente en
tant
fait.
À la vente, donc réduisant les possibilités d'accession à la propriété, mais aussi au niveau du locatif privé. Donc on voit bien que le logement social est pour beaucoup la seule réponse possible, mais qu'il y a beaucoup trop de monde qui sollicite le logement social par rapport aux attributions qu'on peut faire, 400, 450 000 par an ces dernières années. Donc il faut absolument que ce bon levier de la protection sociale soit renforcé en quelque sorte. Or il a subi quand même des coupes depuis le début du quinquennat très importantes. Juste un chiffre, si on prend les économies qui ont été faites sur le logement social et sur les APL depuis le début du quinquennat...
On en parlait d'ailleurs il y a une heure.
Eh bien, c'est 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Vous vous rendez compte ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a trop d'APL ? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a trop de logements sociaux ? Ça veut dire quoi ? En tout cas, ça a eu un impact sur les ménages et sur la production. Donc, il faut maintenant qu'on rebondisse dans une autre direction, j'allais dire inversée, et réaffirmer l'absolue utilité du logement social, mais aussi des APL pour aider les ménages les plus modestes à se loger dans de bonnes conditions.
En tout cas, quand je vous écoute, c'est là où je me rends compte que le chemin est encore très long avant d'arriver à de vraies solutions, en tout cas pour mettre à l'abri un maximum de gens dans ce pays.
Oui.
Ça va être compliqué.
Ouais.
Hein.
Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, raison pour laquelle il faut démarrer vite, il faut se battre, il faut qu'il y ait du consensus aussi. Vous savez, moi, avec les acteurs de l'immobilier dans leur ensemble, les HLM, en passant par la Fédération du bâtiment, les différents acteurs, les promoteurs, on a souvent des diagnostics qui sont communs. Comment se fait-il que nous soyons si différents et pensions la même chose ? C'est bien qu'il y ait un problème. C'est que c'est le premier poste de dépense des ménages, tout le monde a besoin d'un logement, et ce sujet n'est pas traité ou il est maltraité. C'est un énorme problème. On a peut-être une responsabilité collective dans la manière d'arriver à le positionner à sa juste place, mais enfin, il va falloir que ça change.
Bon, écoutez, on fera un bilan dans 5-6 ans. On verra comment
avec
ça
plaisir.
Va se passer. Merci beaucoup Christophe Robert d'avoir été notre invité. Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, et bon courage pour toutes ces missions que vous avez à mener les prochaines années. Merci.
Merci beaucoup.
Le 81e Congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.